France Culture, à voix nue, avec Pierre Michon, par Colette Fellous. Quatrième chapitre, Bose endormi. C'était avec les abbés, Pierre Michon, que nous avions refermé l'entretien d'hier. Donc les abbés, qui est le titre d'un des livres qui vient de paraître, un de vos livres qui vient de paraître, et cette affection pour les abbés que vous nous avez confiée, aussi ce Dieu dont vous avez parlé hier, qui était un point curieux comme ça, qui entrait dans votre façon d'écrire, dans votre œuvre, j'allais dire. Mais vous n'aimez pas le mot œuvre?
Oh.
Si, c'est quand même une œuvre qui se construit depuis les vies minuscules jusqu'à...
Une œuvre, ça veut dire les travaux qu'on a fait.
Voilà, les travaux.
Ouais,
comme,
mais j'aime mieux œuvre que travaux.
Oui.
Parce que travaux sans l'huile de coude et œuvre sans le divin.
Oui. et j'aime aussi cette façon aussi que vous avez de on a parlé hein, tout au long de cette semaine, des morts aussi, des absents, des creux comme ça qui existent dans le réel. Et quand vous dites on entre dans un mort comme dans un moulin, pour peu que ce soit...
Non, c'est Sartre.
Voilà, c'est Sartre. Mais vous dites pour peu que ce mort soit un auteur et qu'on se mêle soi-même d'écrire. Et c'est donc à partir peut-être de cette violente liberté, puisque c'était le titre hier de l'entretien, et de tous ces croisements d'auteurs, Rimbaud, Flaubert, Balzac, Hugo, que vous avez fait votre œuvre qui est...
Ce sont aussi des abbés, c'est-à-dire, je n'ai jamais écrit sur des abbés.
Oui, finalement, on peut dire que ce
soit des littérateurs
des abbés.
ou des abbés, c'est des gens qui ont à traiter avec le tiers absent. Ce sont les seuls qui, sans doute, m'intéressent... pour écrire, hein, je ne veux pas dire dans la vie, les gens font comme ils veulent. Mais j'aurais du mal à écrire de quelqu'un qui ne traiterait pas avec une instance intraitable placée au-dessus de lui. Les écrivains, comme les abbés, sont de cet ordre-là. Ils ont beaucoup de choses en commun. Vous savez, au Moyen-Âge ou jusqu'à la Renaissance, les abbés et les écrivains, c'est les mêmes. C'est un vieux nom pour l'écrivain, l'abbé. C'est la même chose, même au XVIIIe. Enfin, beaucoup de grands auteurs du XVIIIe sont des abbés. Alors après, il y a les abbés laïcs qui leur succèdent, mais qui essayent de refonder une tierce personne absente, que ce soit la nation, ou la liberté, la république, la science.
Hugo est un abbé. Faulkner, vous croyez ?
Faulkner est un abbé. Un abbé absolu.
C'est le père du texte, j'aime beaucoup cette formule aussi, pour Faulkner, que vous avez employée.
J'ai un peu exagéré, je lui ai fait un petit gros cadeau quand même, un gros cadeau.
Il fallait à un moment
Parce que ça n'est pas seulement Faulkner, mais Faulkner m'a fait du bien. Et Faulkner était, je vais dire quelque chose de peut-être un peu désobligeant pour moi. Faulkner, il y a 10-15 ans pour moi, qui n'avait pas encore digéré mon enfance, ou était plus élégant qu'Hugo. Donc, j'ai préféré mettre Faulkner en avant plutôt qu'Hugo. Plutôt... Rimbaud, je l'ai fait aussi, pourtant. Je l'ai fait 10 ans plus tard. Mais continuer sur les abbés, ça me plaît bien, cette idée
des abbés. Et j'aime beaucoup aussi cet abbé qui est tué par un bœuf.
Oui. Oui, c'est parce que deux abbés convoitent la même femme et un des deux abbés place l'autre à la mauvaise place où il y a des bœufs hargneux et les bœufs le coupent en deux.
Et il est fasciné à un moment par une petite fille aussi, ça c'est très...
C'est sa fille.
C'est sa fille c'est qui sa fille, arrive, qui est...
Là c'est
une apparition.
C'est autobiographique, oui. Ouais.
Vous avez changé depuis la naissance aussi de cette fille, on l'a vu dans la semaine avec justement encore notre Bose endormi que vous avez lu à sa naissance. Et est-ce que ça vous a donné une nouvelle liberté? Vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui s'était...
Ça m'a donné la liberté de mourir. ce qui est capital. C'est-à-dire, je ne suis, comment dire, je peux mourir. Oui, ça donne la liberté de mourir. On a beau faire les malins, on est non pas prisonnier, on n'est pas prisonnier, on est tributaire de l'espèce. Et avoir versé son obole à l'espèce est une libération. Le grand nombre de dettes que nous avons envers le monde, nous en avons tous. Le monde a des dettes envers nous, mais nous en avons encore plus envers lui. Et parmi ces dettes, il y a relancer l'espèce. Je ne me rendais pas compte avant de l'avoir fait. L'ayant fait, voilà une dette qui est tombée. Quelque chose peut faire que, tout à coup, je m'endors de façon un peu plus sereine. Je me dis, bon, j'ai fait ça, j'ai donné un otage à la mort, comme on dit, c'est vrai. J'ai donné un otage à la mort, mais comment faire autrement, puisque nous sommes vivants. Nous ne pouvons pas, nous sommes nous-mêmes des otages de la mort. Et que nous donnions la vie à quelqu'un, évidemment, c'est le vouer à la mort. Mais avant la mort, il y a de la joie, il y a quelque chose. Et la mort, après tout, ça n'est jamais que la mort. Elle a cette espèce de, cette petite fille comme moi, cette espèce de petit moment d'individuation de 70, 80, 50 ans, 57 pour moi en tout cas, ou 58. Ce n'est pas que je lui ai fait un cadeau, je ne pense pas ça. Je lui ai fait du mal, puisqu'elle mourra, elle souffrira. Il ne faut pas... Vous savez, il y avait les gnostiques qui disait, il faut arrêter, il faut que le monde s'arrête. Il faut pas faire d'enfants. Mais ça n'est pas ce que voulait Dieu. Dieu voulait qu'on souffre un peu et qu'on soit heureux, beaucoup. J'ai longtemps été gnostique. Flaubert, c'est un gnostique. Le gnostique typique. Ne pas faire d'enfants, ne pas relancer la création, ne pas arrêter tout. Arrêter tout. Moi, j'ai longtemps été comme ça. Mais faire des enfants n'est pas du tout une... Je me rends bien compte que tout ça... Enfin, je n'ai rien compris à la vie depuis le début. J'ai compris un petit peu le langage, j'ai essayé de me brancher dessus, mais j'avais rien compris. Et j'ai rien compris maintenant non plus. C'est-à-dire, je me donne des... Mais Victor Hugo lui-même avait-il compris quelque chose? Non, il était idiot. Faulkner, rien compris. Flaubert, rien compris. De qui je parle? Beckett, absolument rien compris.
Rimbaud,
rien compris. Michon, rien compris. Thierry, rien compris. Colette, rien compris. Rien compris.
Mais on avance quand même.
On avance. À l'aveugle.
Avec peut-être cet étonnement aussi devant les choses, devant le langage, devant le... Là, je pense aussi à la sœur, la petite morte de vie minuscule aussi, qui est peut-être quelque chose, une vraie découverte de la mort dans l'enfance et de l'injustice. Un enfant, un bébé ne doit pas, ne peut pas mourir. C'est peut-être ça aussi, non, cette stupéfaction devant le monde qui fait qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas comprendre.
On ne peut pas. On ne peut que faire comme Bose, dormir un peu. Dormir, mais voir les choses. On ne peut pas comprendre. C'est comme l'histoire. Moi, je l'histoire me passionne. Je suis un passionné d'histoire, vraiment, de la contingence. La contingence universelle, les sacres, les morts des rois, n'importe quoi. On ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Des enfants meurent, des gens souffrent, des gens règnent. Mais ils souffrent aussi. C'était le moment people à Châtelet-Marché.
C'est la dernière phrase aussi d'Abbé, Pierre Michon, c'est « Comme toutes choses sont muables et proches de l'incertain ».
Oui, cette dernière phrase, j'y tiens beaucoup. Mais je tiens beaucoup à... On parlait tout à l'heure ensemble de Jean-Christophe Bailly. Jean-Christophe Bailly a dit une chose géniale à propos de Racine. Je ne sais pas si c'est lui, je pense que c'est lui. Il a dit « Toutes les phrases de Racine sont comme une dernière phrase. J'aimerais faire un texte où toutes les phrases soient une dernière phrase. La dernière phrase, c'est le moment où on se sépare du texte, donc où on doit, je dirais bien, où on doit jouir, si c'est un accouplement. Mais il faudrait jouir à chaque instant du texte. Et je m'efforce de le faire parfois. La littérature sert à tout. C'est vrai qu'on s'adresse au grand absent, mais c'est aussi comme un coït pour mes textes. Enfin, je ne connais rien d'aussi fort.
Il y a presque rien. Il y a des scènes souvent comme ça érotiques qui arrivent brutales.
Mais c'est pas seulement c'est bien les scènes érotiques.
C'est les phrases, bien sûr.
Comme des blocs de jouissance.
Ouais, ouais. Des rythmes comme ça qui surgissent.
De jouissance noire. C'est-à-dire, c'est à la fois des blocs de jouissance et des pierres tombales. On met ensemble, je m'efforce de mettre ensemble la mort et la jouissance. La mort et la joie, plutôt. La jouissance n'étant qu'une des modalités de la joie.
Maudissez le monde, il vous le rend bien. Ça, c'est dans Le Roi du Bois.
Oui, mais ça, c'est une erreur. C'est une
phrase
flaubertienne. C'est une
phrase
flaubertienne. Maudissez le monde, ils vont bien. C'est pas faux. D'abord, c'est faux.
Mais c'est
d'abord,
de vous.
C'est de moi. D'abord, je ne maudis pas le monde. Ensuite, il s'en fout. Il ne me rend rien du tout.
C'est parce qu'elle a un beau rythme.
Elle est belle.
Elle est belle.
Maudissez le monde, ils vont bien. C'est des cavaliers. C'est une sorte de cavaliers. Donc, ils sont à la chasse, il y a du brouillard. Maudissez le monde, ils vont bien.
Vous taillez, vous galopez dans les phrases, il y a un rythme comme ça tout le temps avec des...
Pas tout avec, le temps, le plus que je peux.
On sent que vous emportez, vous êtes... et en même temps, en maîtrisant avec aussi des...
On ne sait pas.
Un vocabulaire aussi qui est... Comment vous vous êtes approprié ce vocabulaire? On ne sait pas d'où vient.
En lisant des livres, des dictionnaires, en cherchant les mots. Mais je m'efforce maintenant quand même d'être de plus en plus simple au niveau du vocabulaire. Les minuscules étaient un peu gavés de vocabulaire.
Volontairement, pas sophistiqué, mais recherché.
Oui, sophistiqué. Sophistiqué. J'aimais beaucoup l'archaïsme. Je l'aime toujours, mais je l'aime à lire, beaucoup moins à écrire. On peut dire les mêmes choses avec des mots vraiment extrêmement simples. Le texte que j'ai fait sur Beauze, là, je pense, est bien de ce côté-là, parce qu'il n'y a pas un seul mot qui sort de la donne que nous avons tous. Mais il est important aussi de faire vivre le langage, sans doute, mais Je ne suis ni puriste, ni son contraire. Je dirais bien que ça ne m'intéresse pas. Je dirais bien aussi que je changerais bien volontiers totalement l'écriture maintenant. Que peut-être je ferais.
Vous avez envie de ça de...
Je ne sais pas. J'ai envie, oui. Mais je l'ai fait, je l'ai fait plusieurs fois, je pense. De quoi parler, de quoi...
Des anges, de l'ange, de cette petite morte aussi comme un ange, ou de cette petite fille, des petites filles qui apparaissent, des anges.
Les petites filles ont beaucoup apparu dans mes textes, elles sont venues. C'était peut-être ma fille qui m'appelait. C'était ma fille qui m'appelait. C'était ma sœur morte, ma fille. Je vais vous raconter quelque chose qui est intime. Oui, parce que ça me fait à la fois de la peine et plaisir. Une fois, j'avais été invité à par Lyotard, le philosophe, dans une table ronde sur l'écriture. Il m'avait dit, ayant lu Les Filles minuscules, en somme, vous êtes la dernière des femmes. Parce qu'effectivement, dans la,
voilà,
Et je me dis, il est mort maintenant, mais s'il savait que j'ai une petite fille, ça serait marrant de lui faire savoir qu'est-ce que je fais là ? Quel est ce maillon masculin là ? Entre des lignées de femmes. C'est pour ça que j'aime Hugo aussi.
Oui.
C'est parce que
vous
c'est
disiez
le, c'est
aussi
pareil,
c'est qu'il avait une tête de femme.
Oui. Et puis c'est une liaison entre
les femmes. Une liaison dans les générations. Ouais. Entre
son
les...
père, qu'il a peu connu, qu'il a inventé, enfin, qui était capitaine de Bonaparte.
Et votre père, en fait, vous ne l'avez jamais vu, même vu ?
Je l'ai vu. Je l'ai vu quand j'avais 6 ans. Il est venu pour reprendre ma mère. Ma mère ne l'a pas fait rentrer. Il pleurait. C'était dans une cour d'école en novembre ou décembre. Il faisait mauvais. J'ai vu quelque chose comme le fait que le père n'existe pas. Si le haut ciel existe. Vous savez, là, je dis n'importe, enfin, je suis content de dire ça parce que je ne l'ai jamais dit. Enfin, comme ça, mais. On se fait des cinémas pas possibles avec des scènes comme ça. Qui sont rien, qui sont. Enfin, nous-mêmes, nous pourrions nous séparer d'une femme et aller chercher un enfant, ou je sais pas quoi, pleurer. Mais l'enfant stocke ça de façon mythologique. Et c'est bien comme ça. Et c'est bien comme ça. Parce que qu'est-ce qu'il ferait de sa vie ? Il n'aurait que des idées reçues, sinon. Là, il n'a pas d'idées reçues. Il a des événements. Des événements incompréhensibles.
Il
massifs.
Ne dit rien, il regarde. Oui. Et ça dure toute la vie, oui.
Voilà de quoi devrait parler la littérature. La mienne ne parle pas de ça. Mais quand elle parle trop de ça, elle est ennuyeuse. Quoique. Non, les confessions. Je ne parle que de ça. Mmh. Et c'est parfait. Ah oui, écrire les confessions. Voilà quelque chose qu'il faut faire.
Voilà. Voilà un long livre à faire. Et Bose, moi, j'aimerais bien que vous le lisiez, Pierre Michon.
Je vais en lire un petit morceau.
Bose endormi, de Hugo, qu'on a attendu toute la semaine.
Juste un petit morceau. Mmh. Bose s'était couché. De fatigue accablée. Il avait tout le jour travaillé dans son air, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Bose dormait parmi les boisseaux pleins de blé. Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge. Il était, quoique riche, à la justice enclin. Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin. Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe était d'argent, comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, laissait tomber exprès des épis, disait-il. Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc. Et toujours du côté des pauvres ruisselants, ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques. Bose était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau. Mais le vieillard est grand. Le vieillard, qui revient vers la source première, entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Donc, Bose, dans la nuit, dormait parmi les siens. Près des meules qu'on eût prises pour des décombres, les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres, et ceci se passait dans les temps très anciens. Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge. La terre où l'homme errait sous la tente, inquiet des empreintes de pieds de géants qu'il voyait, était mouillée encore, et molle du déluge. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, Bose, les yeux fermés, gisait sous la feuillée. Or, la porte du ciel s'étant entrebâillée, au-dessus de sa tête, un songe en descendit. Et ce songe était tel que Bose vit un chêne qui sortit de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu. Une race y montait comme une longue chaîne. Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. Et Bose murmurait avec la voix de l'âme: comment se pourrait-il que de moi ceci vint? Le chiffre de mes ans a passé 80, et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre, et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre, elle à demi vivante et moi mort à demi. Une race naîtrait de moi, comment le croire? Comment se pourrait-il que j'eusse des enfants? Quand on est jeune, on a des matins triomphants, le jour sort de la nuit comme une victoire, mais vieux, on tremble, ainsi qu'à l'hiver le bouleau. Je suis seul, je suis veuf, et sur moi le soir tombe, et je courbe, ô mon Dieu, la tête vers la tombe, comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau.
On va croire que vous le lisez, mais vous êtes un véritable acteur, vous le connaissez par
je
cœur.
Je finis.
Allez-y.
Ainsi parlait Bose, dans le rêve et l'extase, tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyé. Le cèdre ne sent pas une rose à sa base, et lui ne sentait pas une femme à ses pieds. Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite, s'était couchée aux pieds de Bose, le sein nu, espérant on ne sait quel rayon inconnu, quand viendrait du réveil la lumière subite. Bose ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodel. Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit, par moments, quelque chose de bleu qui paraissait une aile. La respiration de Bose qui dormait se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. On était dans le mois où la nature est douce, les collines ayant des lys sur leur sommet. Ruth songeait et Bose dormait. L'herbe était noire. Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Hur et dans Gérimathée. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre. Le croissant fin et clair, parmi ses fleurs de l'ombre, brillait à l'occident. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles.
Bravo. C'est, bon. On dirait un tableau aussi. On dirait, on pourrait écrire un autoportrait, en fait, à partir de ça, pour vous.
C'est moi dans tous mes âges. J'ai toujours dormi. Je suis comme Bose. Mais il suffit de dormir et la vie se fait toute seule.
Ça me rappelle la dernière phrase de la grande beune. Nous dormions tous, la grande beune, la grande beune.
Couler
continuez,
ou continuer.
Voilà, continuez.
Oui.
À demain, Pierre Michon, donc pour une vie minuscule, inédite peut-être. À voix nue, Colette Fellous, Réalisation Bruno Sourcy.